19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver, chers amis. Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices. C'est parti, vous le savez, durant une heure, pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Et bien, au sommaire de cette émission, sachez-le, plusieurs sujets qu'on va aborder, qu'on va affronter. Le remaniement du gouvernement qui se fait, c'est pas désiré, là. C'est comme, vous savez, une relation d'un homme qui cherche à essayer de séduire sa future femme ou sa future compagne ou sa future nana. C'est un peu ça. C'est l'image que j'ai, tu vois. C'est clochette. Ça me démange. Ah ouais, c'est même plus. Depuis quelques jours, on ne parle que de ça. Ah là 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 là. Ouais, je sais pas. J'espère qu'ils vont nous pondre quelque chose quand même qui ressemblera à un beau visage du gouvernement Attal. Hein. Ouais, Bruno Pomard, il me fait une tête, une grimace. C'est pas une tête, une grimace. Il me dit, je doute. Alors, le feuilleton continue, effectivement. Regardez, on le voit un peu partout dans tous les. Du direct. Bon, allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Nous reviendrons sur un sujet d'actualité. C'est tous en stage. Ça concerne les gamins. Et ben, on va en parler avec Sabrina Djouadi, qui est la présidente responsable d'une association. On va revenir avec elle justement sur ce sujet. Ensuite, après, nous irons accueillir les débatteurs influenceurs qui sont chauds ce soir, chers amis. On reviendra sur le gouvernement, on va le commenter en direct. S'il tombe, évidemment, on le commentera. On reviendra sur François Bayrou, évidemment, qui provoque, vous savez quoi? Un tsunami. Clochette. Un tsunami. François Bayrou, vous savez quoi? Alors là, lui, c'est clash sur clash. Il est venu. Le mec, il est venu, il s'est dit, attends, vous croyez quoi? Moi, je suis un ancien. Non, mais j'ai vu le truc, comment ça s'est fait. Il a été voir Emmanuel Macron, il a dit, moi, je suis un ancien. Quand tu m'as demandé de démissionner quand j'étais ministre, je l'ai fait. Ah, donc si je reviens, je suis ministre d'État. Moi, je vais dépendre directement de toi. À mon avis, Emmanuel Macron lui a dit, je vous l'ai fait évidemment de façon triviale. Hein. Ah ben, ça va pas se passer comme ça. Ton responsable, c'est Gabriel Attal, que tu le veux ou non. Gabriel Attal. Bon, bah, vous allez voir ce que vous allez voir. On va en parler justement. Un camp de migrants évacués à Paris et des associations qui dénoncent ça. Ça sent les JO là, non? C'est pas un peu ça, non? Donc tout ce qui pose problème. Non, c'est ça, non? Clochette. Ah, les amis, hein, vous allez voir. Hein. J'espère qu'Hassan Ben Barak, il est chaud hein, pour en parler ce soir. Hein. Alors, Meyer Habib, vous savez, c'est le député. Hier, on l'a vu taper la bise à Jordan Bardella. Bon, pas de problème. Il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, il s'en prend à Monsieur Bompard, qui est député à côté. Alors, on va s'intéresser à ce qu'il s'est dit. Il n'y a pas eu d'échange. Il a balancé une phrase à Monsieur Bompard, le député. Et quand il a fini avec Bompard, bah, il tape la bise à Jordan Bardella. Je sais pas, est-ce qu'on peut parler de connivence? Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui se trame? Plus rien n'est surprenant dans la politique. Quand je vous disais que c'est du cynisme, la politique. Bref, clochette. On parlera aussi de tout ça avec vous, 0153483000, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir commenter, à vouloir témoigner. Franchement, moi, ça me fait plaisir parce que vous avez envie de raconter des choses. Comme hier soir, vous étiez très nombreux. Bon, on remet ça ce soir, jusqu'à 20h. Vous allez au championnat du monde ce soir? Vous savez qu'il y a Cyril Benzaken et Benzaken.
Ah oui, je connais bien d'ailleurs. Oui, absolument. C'est un garçon formidable. Oui, non, j'y vais pas.
Éphémère.
Oui, non, mais j'y vais pas. Non, ça me fait peur, les forts de combat. J'en ai tellement pratiqué.
C'est bon, c'est attendu ce soir.
Oui, ça va être bien, mais tant mieux.
Il y aura tout le gratin, toutes les personnalités, toutes les stars.
C'est beau qu'il y ait des spectacles défiler. Comme ça, encore une fois. Ça,
ouais, ça va passionner les gens. Ce soir, hein. Ça se passe au Grand Palais éphémère. T'étais pas au courant, Nabil. Hein. Ouais, ce sera la réalisation. On a besoin de toi ici. Allez, c'est parti. Et le 19h50, c'est Pascal Boniface et son billet.
Excellent, toujours.
Toujours brillantissime, ouais, Pascal Boniface. Allez, c'est le programme qui vous attend. Qu'est-ce qui se passe, Katia? Ah, Katia, Horizon avec Édouard Philippe, là. Ah, il chute, hein, Édouard. On n'entend plus parler de lui. Hein.
Bah, il paraît qu'il est au coude à coude aussi.
Out, le mec.
Arrêtons.
Moi, j'y crois pas.
50-50.
Je vais pas vous décevoir, Katia. Katia, j'ai pas envie de vous décevoir. Moi, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. C'est parti, c'est tout de suite. J'ose le dire. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Il y en a une que j'aime beaucoup, qui représente une association. C'est Samira Djouadi. Vous connaissez Samira Djouadi? Samira, bonjour. Samira, bonjour.
Bonjour Adil.
Oh, je reconnais votre enthousiasme et votre énergie. Qui nous... D'ailleurs, vous savez quoi? Qui nous embarque avec vous. Comment allez-vous tout d'abord, Samira Djouadi?
Très bien. Écoute, super. Tout va bien.
Quel plaisir de vous accueillir ici, ma chère Samira, pour parler de Tous en Stage. Ça, c'est vous, Tous en Stage. Alors, vous avez décidé, avec votre association Tous en Stage, justement, de nous en parler. C'est pour ça que, quand vous m'avez interpellé, je me suis dit, ça, c'est une bonne idée. Parce que Tous en Stage, il faut qu'on en parle. Alors, d'abord, plantons le décor. De quoi s'agit-il ?
Alors, donc, Tous en Stage a décidé cette année, dans le cadre... de la réforme du bac professionnel qu'il y a eu l'année dernière, qui dit aux chefs d'établissement, créer des options qui peuvent attirer vos élèves et non pas des options qui, en fait, où on se retrouve avec un ou deux élèves, donc des choses qui ont du sens et qui les animent. Et de là, j'ai décidé, donc je suis allée voir 5 établissements scolaires de lycée pro, bien sûr, en région parisienne, en leur disant, écoutez, moi j'ai une idée pour vous, qu'on pourrait construire avec vous et des entrepreneurs, de créer une option entrepreneuriale, une option qui permettra à vos élèves, au lieu de se planter, parce que souvent ils nous disent, ah ouais, mais moi après le bac, je veux créer mon business. Dans le mot business, on voit très bien qu'il n'y a rien de structuré, c'est ils veulent se faire de l'argent. Sauf qu'on sait tous que dans la réalité, quelqu'un qui n'est pas structuré, il risque de planter sa boîte. Et donc, on a décidé de créer cette option entrepreneuriale qui, en plus, donne du sens dans le cadre du baccalauréat. Donc, c'est des points à aller chercher et de manière à les acculturer à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est vraiment, en les confrontant avec des entrepreneurs qui vont leur expliquer leur parcours, leur vécu, leur péripétie et aussi, bien entendu, leur réussite. Et aujourd'hui, donc on a confronté les 5 établissements au Conseil économique et social. Alors, je peux vous dire que ça a été un voyage extraordinaire parce que même les profs, aucun d'eux n'avait déjà mis les pieds au CESE. Donc déjà, c'était la grande découverte.
Rappelons que vous êtes conseillère au CESE, notamment.
Exactement.
Vous êtes conseillère et ça se passe au CESE, d'ailleurs. L'événement, il se déroule, pardonnez-moi de vous interrompre, jeudi. C'est quand c'est
Conseil
économique et social. Alors, ça s'est passé au Conseil économique, social et environnemental. Tous en Stage, justement, c'était quoi l'intérêt que ça se passe au CESE pour vous? Parce que pardonnez-moi, mais parfois il y a des questions qui fâchent. Quand on voit tous ces gamins, lorsqu'ils veulent aller, évidemment, se procurer un stage, et que c'est très compliqué quand on vient des quartiers populaires. Franchement, ça commence là. D'ailleurs, c'est là où le bât blesse. Ça commence ici. Comment vous faites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez raconté justement au CESE?
Déjà, pour moi, c'était d'abord parce que j'ai la chance d'y siéger en tant que conseillère. On n'oublie pas que tous les jours, on nous rabâche que c'est la maison de tous les citoyens. Donc déjà, quand on vous dit ça, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette maison, elle doit être prise par les citoyens, ça doit être leur maison, quoi. Dans la réalité, c'est pas le cas, parce que n'y vont que ceux qui connaissent ce lieu. Donc pour moi, il était important que ces jeunes comprennent que ce lieu a été créé donc pour les citoyens, contrairement à l'Assemblée et le Sénat, où il faut être élu par le peuple. Là, c'est vraiment la maison des citoyens qui a la possibilité de porter des pétitions sur des thématiques qui les animent et que nous, on va aller travailler sur lesquelles on va plancher pour justement essayer de nous proposer des préconisations.
Alors justement, parlons-en.
Pour moi, c'était très symbolique.
Donc effectivement, on voit la portée symbolique parce que vous avez raison de le rappeler, effectivement, ce lieu qui est le lieu évidemment des Français finalement. Au CESE, donc je sais qu'il y a eu des ateliers de création d'entreprises. Et notamment, il y a eu cette fameuse restitution des projets de création d'entreprises. Alors, en quelques mots, on ne va pas dérouler le truc, mais en quelques mots, comment ça s'est passé justement cette restitution?
Écoutez, aujourd'hui, ils sont venus toute la journée. On a organisé ce qu'on appelle un hackathon dans le jargon de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était de leur dire, jusque depuis septembre, vous avez emmagasiné plein de parcours d'entrepreneurs qui sont venus vous voir, qui vous ont expliqué. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez maintenant, vous, en mode production et qu'en équipe, vous produisez, vous créez une entreprise. Les seules conditions qu'on leur a données, qui est le point commun avec toutes les équipes, il y avait quand quand même 40 équipes hein, de jeunes entrepreneurs, c'est de mettre de l'intelligence artificielle dans tous vos projets. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est la génération de l'IA, donc on ne peut plus passer à côté. Et c'était marrant parce que certains nous disaient, mais madame, moi, dans mon business, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Et quand on a commencé à creuser et discuter avec eux, que si, au contraire, bah là, en fait, ils se sont rendus compte que l'intelligence artificielle, c'est partout. Mais oui, c'est partout, sauf qu'on ne sait pas encore bien l'utiliser, voire on en a peur. Et donc après, ils ont bossé avec des experts de l'IA qui sont venus les coacher. J'ai demandé à tous les entrepreneurs qui étaient venus les voir dans leur lycée de venir les encourager, de venir leur donner des petits tuyaux, des petites astuces, etc. Et ben, je peux vous dire que quand ils ont pitché en plus ou dans l'hémicycle, donc vous imaginez, pitcher dans un hémicycle, c'est juste extraordinaire, et ben, je peux vous dire qu'ils ont bluffé tout le monde. Déjà dans leur
en même temps, quand je vois votre énergie, on ne peut être qu'emporté, évidemment. Non, mais c'est vrai. Samira, vous savez ce que je vous propose, moi ? Je viens d'avoir l'idée en direct, là. C'est qu'on fasse une émission spéciale dans le cadre des Informés des quartiers. Et qu'on fasse un truc autour de Tous en stage, parce que ça mérite quand même pendant une heure d'en parler.
Vous êtes
partante ou pas ?
Avec grand plaisir.
Comme ça, vous faites venir justement tous ces jeunes et puis tous les protagonistes et puis on parle de Tous en stage tous ensemble.
On y va.
On va caler tout ça. Moi, ça me plaît cette idée.
Merci beaucoup, Adil. Merci pour cette belle visibilité en tout cas.
En tout cas, bravo et puis il faut rien lâcher.
Merci. Exactement, on lâche rien.
Et qu'est-ce que vous avez envie de dire alors à tous ces gamins justement qui sont toujours à la recherche et qui galèrent pour trouver des stages ? Vous leur dites quoi, ma chère Samira Djouadi ?
D'abord, je leur dis de rien lâcher, qu'ils doivent prendre place parce que la société, c'est la leur, hein. C'est pas celle de l'autre, c'est la l'autre. Et puis de ne pas lâcher parce que c'est à force de chercher, de rencontrer du monde, qu'on finit par trouver la main qui va nous tendre les choses, qui va nous tendre la main, qui va nous permettre de décrocher un stage ou de décrocher un projet ou une rencontre. Donc voilà, donc surtout ne lâchez pas, parce que d'abord, ils sont brillantissimes, nos jeunes des quartiers. Ils sont incroyables. Quand on leur donne notre confiance et qu'ils donnent la leur, je peux vous dire que ce sont des pépites extraordinaires.
Merci infiniment, ma chère Samira Djouadi, pour Tous en stage. Et on fera une émission spéciale ici même. Donc, ça a été annoncé en direct. Donc, à très vite, ma chère Samira Djouadi.
À très vite, Adil. Merci à toi. Merci.
Mais grand
et
plaisir.
Merci à tous les auditeurs. Merci.
Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Katia Burrier qui représente Horizon, en même temps les macronistes. Pour une fois, vous n'allez pas vous sentir seul, Nabila et Takash. Non, mais je vous jure, je pensais à vous. Je me suis dit, le pauvre, à chaque fois, vous savez, il se bagarre comme pas possible avec tous les gens des filles, les extrêmes gauches, etc.
Mais moi, je suis sans étiquette, je te fais remarquer, attention. Mais, hein.
Souvent macroniste.
Même les sans étiquette. Je vous permets pas, Adil Farkan.
Même
les sans étiquette.
Même les sans étiquette. Comment ça va, Katia ?
Ça va très bien. Bonsoir à tous et à toutes.
Rappelez-nous tout ce que vous faites.
Alors, moi, je suis élue sur Saint-Maurice, dans le 94. Ensuite, je suis responsable dans la conformité bancaire. Je m'occupe de tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Pourquoi tu fais cette tête à Lille ?
Tu sais, quand on voit les termes,
ouais, ça
quand
fait peur.
On aurait dit, c'est genre la cellule spéciale, tu sais.
Il y a du boulot.
C'est ça.
Hassan Benbarek, comment ?
Ça va.
J'ai écorché votre nom, non ?
Non, c'est bon aujourd'hui, non.
Un militant sans faille, hein. Ah oui, il a jamais l'affaire, hein.
Ah, on a discuté avant, oui, j'ai l'impression qu'il est...
Il est toujours là, il est toujours présent, lui. Un président d'une association, rappelez-nous votre association, tiens.
Collectif banlieue respect.
Absolument. Bruno Pommard, je ne le présente même plus. Chroniqueur, attendez, il faut que je compte, hein. Chroniqueur, maire.
Un cumulard.
Maire, plus...
Maire sans étiquette.
Le père fondateur, président fondateur de Raid Aventure.
Ouais, c'est important.
Ancien membre du Raid, politicien.
Non, pas politicien.
J'arrête là. Non, Bruno Pommard, je rigole. Qui aime bien, châtie bien. Ça va, Bruno ?
Ouais, très très bien. Je suis très content, tu sais, de venir à Beurre FM, parce que j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de médias souvent. Et, et je suis très content avec RMC, avec les grandes gueules, avec BFM, LCI.
Ça va, la promo, là ?
Mais je suis. Ouais. Je me fais la promo en même temps, c'est jamais. Et chez Cyril aussi, chez mon ami Cyril Hanouna, j'ai TPMP, que j'aime bien faire. Donc je suis très heureux d'être à vos côtés, évidemment.
Nabil Takash qui prend des clashs. Mais c'est vrai, c'est
Morandini. Il est chez CNews, il va chez CNews.
Ouais, ça y est, maintenant.
Ah, mais il rigole pas, Morandini.
Hein. Ouais. Ah bah, en plus, moi, je rigole pas.
Mais surtout, il se fait clasher, mais il se débrouille très bien. Il a raison. Il a été caché.
Il faut pas laisser les gens dire des bêtises.
Absolument. Vous défendez bien votre cause.
Pas toujours évident de défendre Renaissance parfois.
Responsable de Renaissance dans 93. Elle va bien, Shannon Seban, d'ailleurs, la présidente.
Elle va bien, on s'est vu la semaine dernière.
Ça veut dire de revenir ici.
Oui, je lui passerai le message.
On lui a mis le pied à l'étrier, maintenant elle déserte. Genre,
je lui passerai le message.
Ouais, faut être lui passer le message, tiens. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le réalisateur? Il me pousse là, il me dit allez, faut marque la pause là, marque la pause. Pause, et on se retrouve pour parler du remaniement.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés avec tout ce beau monde qui sont autour de ce plateau. Katia Burier, Bruno Pomar, Nabil Etakash et Hassan Barek. Eh bien, messieurs, madame, nous allons tout de suite... Ben Barek, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, parfois ça m'arrive.
Ne m'inquiète pas, non.
Remaniement gouvernemental, qu'est-ce qu'on peut dire, Nabil Etakash, justement, sur ce remaniement, à la fois, on reviendra sur les propos de François Bayrou dans un second temps. Mais l'acte 2, justement, Attal, donc acte 2, concernant les entrants et les sortants. Est-ce que vous avez des news et est-ce que vous avez des noms qui commencent à circuler avant l'annonce officielle?
Écoutez, il y a déjà des noms qui sont en train de circuler. On a Mme Belloubet, ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui revient à l'Éducation nationale, qui vient un peu aussi rebalancer à gauche, puisque c'est une ancienne du Parti Socialiste, qui était aussi rectrice d'académie, donc qui connaît bien les questions d'éducation nationale, qui avait démissionné à l'époque parce qu'elle dénonçait les suppressions de postes, donc, et rappelons qu'elle l'a fait sous une majorité socialiste. Hein. Elle était en poste dans l'éducation nationale pendant la mandature socialiste.
Voilà, il y a Marie Guévenoux.
Sous Jospin. Ouais. Ensuite, vous avez vous avez les annonces là qui arrivent. Vous avez un député Horizon qui devient ministre de la Santé en remplacement d'Alain Rousseau. Et aussi des députés, donc très politiques. Marie Guévenoux, ministre des Outre-mer, Guillaume Casbarian, qui est aussi député de la majorité Renaissance au logement.
Au logement, absolument,
donc,
ministre.
Voilà. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est
Est-ce qu'on peut parler de surprise? Est-ce qu'il y a des... Non?
Surprise, je sais pas qu'est-ce qu'on appelle surprise pour nos auditeurs. Je pense pas que nos auditeurs, les Français en général, que nos concitoyens se...
Si, la surprise, c'est que Mme Oudéa Castéra perd son poste de ministre de l'Éducation nationale, visiblement, d'après les informations qu'on a, évidemment toute la polémique qu'elle tourne autour du
Duval. Elle est remplacée sur le portefeuille d'Éducation nationale.
Est-ce qu'elle est maintenue pour
Est-ce qu'elle est maintenue? On va voir.
Et les JO.
Et garde, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure.
Alors, Bruno Pomar.
Je sais pas si vous l'avez dit, mais il y a Valtoux aussi qui a été Horizon, ça a été dit, c'est bien. On voit qu'on renforce, je dirais, la présence d'Horizon dans le gouvernement. Je crois qu'il a tout intérêt à ouvrir, Macron, le gouvernement, avec des gens qui ont de l'expérience, parce que Valtoux, c'est un maire de grande ville comme Fontainebleau, qui a l'expérience. On a besoin de gens d'expérience. Je trouve que ces gouvernements manquent de gens d'expérience.
Des élus locaux,
merci de la précision. Ça, c'est important. Et je pense qu'à travers Belloubet, qui a quand même une expérience évidente, puisqu'elle a été élue en région Occitanie à Toulouse, Valtoux est maire de Fontainebleau. Donc il y a quand même un redout. Il faut espérer que tout ça serve à quelque chose, parce qu'il y a vraiment du travail sur la planche. Quoi.
Ça vous surprend le fait que Mme Oudéa Castéra perd son portefeuille de l'éducation nationale? C'est surprenant?
Non, mais je crois que c'est...
Finalement, c'est une fausse surprise.
Elle s'est enfoncée complètement, la pauvre. Elle a perdu pied, c'est dommage. Bon, mais c'est comme ça. C'est le problème, c'est qu'il faut des gens d'expérience pour faire de la politique. Et là, visiblement, certaines ne sont pas de vrais politiciens. C'est un métier, encore une fois. Et donc, il faut être vigilant.
Vous êtes maire?
Oui, mon petit niveau, maire d'un village, c'est pas grand-chose, mais...
Bah, il faut gérer, hein.
Je veux dire, dans les responsabilités au plus haut niveau, c'est vrai qu'on ne peut pas se tromper, et encore une fois, je crois que c'était nécessaire d'assainir, je dirais, ce gouvernement. Assainir, c'est un mot un peu fort, mais de remettre en ordre des hommes et des femmes politiques qui aient de l'expérience. Je crois que les Français ont besoin de ça.
Ils ont besoin de ça. Katia Burier, justement, vous êtes d'Horizon, vous représentez Horizon, y compris la majorité, c'est-à-dire Macron. Quand on voit ces noms circuler, et notamment ceux qui ont été esquissés par Nabil Etakash, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et est-ce que finalement,
Non, mais bon,
l'acte 2 est sans surprise, quoi.
Alors, pour Frédéric Valletoux, c'était déjà prévisible, en tout cas, lors du...
Son nom circule depuis quelques jours, déjà.
Oui, puis déjà, lors du premier remaniement, il y avait déjà son nom qui circulait, donc je ne suis pas trop étonnée qu'il prenne ce ministère. Donc, plutôt contente, bien évidemment, pour Horizon. Ensuite, concernant Mme Belloubet, oui, en effet, quelqu'un qui a de l'expérience, qui vient du Parti Socialiste, comme le disait mon collègue, qui sait de quoi elle parle, qui a été rectrice, donc pas non plus de grande surprise. Alors, surprise peut-être par le nom, mais pas de surprise par rapport à son expérience.
Ancienne du PS.
Ancienne du PS, oui, absolument. Oui, tout à fait.
Et avec des convictions quand même, parce que même en tant que fonctionnaire, elle a démissionné, oui, parce qu'elle dénonçait les suppressions de postes. À un moment où on parle de trop de gestion en fait de l'éducation nationale, oui. Là, on sait qu'elle est sur
c'est
la
une crise, hein,
sur, oui elle est sur une position qui est que les ressources humaines c'est quand même très important, on va
tout
pas simplement
fait.
Faire
donc,
du gestion
elle montre de la gestion, bien alors. En tout cas sa position par rapport à ça, par rapport à cette crise de l'éducation nationale, donc plutôt contente aussi de cette nomination. Concernant les autres personnes, bon, après.
Bien dans le micro, ouais.
Pardon, oui. Ouais. Bon, on verra bien après ce que ça va donner.
On attend, en tout cas, c'est dans. Tomber, visiblement, bon. D'après les informations que j'ai, puisque je viens de recevoir un SMS, ça risque de tomber dans quelques minutes.
Bon, on va les avoir en direct.
Paraît-il. De toute façon, je crois qu'ils sont contraints de le faire aussi. Hein. Vous savez, pour les anciens députés, justement, qui
peuvent. Et vous savez, moi, j'ai radié
cette contrainte. Parce qu'il y a un décret là-dessus, vous le savez. Je vous l'apprends pas.
Je vais pas
le dire. Qu'on ne l'a pas entendu.
Pardon. Allez-y. Juste une petite pierre de la mare, on a parler hors antenne, mais on se rend compte quand même que la société continue à tourner. Ça me rappelle une histoire belge, vous savez, du gouvernement belge qui avait démissionné. On se rend compte qu'avec peu de ministres, en fin de compte, la France continue et les administrations continuent à tourner. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 45
oui,
ministres
mais alors, vous savez très bien, que, en effet, la France continue de fonctionner. Mais quand vous avez un politique à la tête d'un ministère, c'est lui qui donne l'impulsion politique aux administrations. Bien sûr que les administrations sont là pour faire tourner le pays, mais elles le font tourner avec des instructions politiques.
Hassan Mbembarek, on ne l'a pas entendu.
Je dirais, bon, pour répondre à M. Ennakash, un bon ministre, c'est certes quelqu'un qui donne une direction politique, mais pour beaucoup de... pour les administrations, en tout cas les gens qui composent les administrations, un bon ministre, c'est quelqu'un qui réussit à obtenir un budget assez conséquent et que les arbitrages aillent toujours dans son sens. Voilà. Bon, généralement, c'est comme ça que présente.
Si vous regardez, il y en a beaucoup alors de bons ministres. Parce que
je pense
vous
sur
avez,
les arbitrages,
vous avez
j'entends sur les arbitrages.
Qui a obtenu des hausses historiques pour la justice, énorme, hein, continue.
En tout cas, sur la nomination de Mme Belloubet, moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout une ministre qui, à un moment, a démissionné pour protéger, je dirais, les gens qu'elle pilotait. Donc je pense que déjà, il y a une colonne vertébrale. En plus, bon, elle est docteur en droit public, elle était membre du conseil... Je crois que membre, en plus, je crois, du conseil constitutionnel. Donc voilà. Donc je pense que c'est un bon profil. Deuxième chose aussi, elle est membre du MoDem. Donc il y a une ouverture politique, hein, aux gens du MoDem. Et pour rejoindre ce que disait il y a un instant Katia, aussi avec Horizon. Donc on voit bien que Monsieur Macron, le président Macron, a donc décidé d'ouvrir, je dirais, à des personnalités du MoDem, d'Horizon. Donc voilà, il est dans une logique de rassemblement. Ce qui
alors
est une
justement,
bonne chose.
Parlons d'une crise qui vient de s'ouvrir, c'est au sein du camp présidentiel. Ça vous fait sourire, Katia Bourburier? Oui, justement, c'est François Bayrou. Voilà. François Bayrou qui clash sur clash. Bruno Pomard. Qu'est-ce qui lui prend,
François Bayrou, on va faire un peu d'histoire. Ça fait 40 ans qu'on le voit, qu'on se le supporte.
Qu'on le supporte, c'est peut-être pas le mot.
Moi, je le supporte, alors, si vous préférez, mon cher ami. Voilà. Mais ça fait 40 ans qu'il est dans le paysage politique, qui menace, qui essaie de trouver des équilibres avec les uns, avec les autres, depuis Chirac et même avant avec Mitterrand. Il est toujours dans l'espèce de compromis, dans la pression, dans la recherche de quelque chose, parce que quelque part il est pas, à mon sens, il est pas bien dans sa peau, ce monsieur. Il a été quelque temps ministre de l'Éducation nationale, très éphémère ministre de la Justice. On l'a mis haut commissaire au plan. On n'a jamais entendu parler du plan. Il y a des sous-préfets qui sont mis en place partout en France.
Très peu.
Non,
j'en dis pas jamais.
Simplement. Mais quand même, il faut quand même, à sa charge. Il faut savoir que suite à son affaire sur les détournements de fonds publics, l'instruction a duré pendant 7 ans. Donc lorsque vous êtes inculpé dans une affaire et que ça dure depuis 7 ans, je pense que le bon sens voudrait que vous soyez...
Il a été relaxé.
Oui, il a été relaxé, mais bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, il semblerait qu'il y ait un appel là.
Oui,
tout à fait,
c'est tombé aujourd'hui.
C'est tombé maintenant, un appel au moment où il dit que un poste de ministre ne l'intéresse pas et qui se positionne pour l'élection présidentielle de 2027, à mon avis, il y a du règlement de compte dans l'air, ou en tout cas une neutralisation. Mais ça, on va en discuter.
Et puis, je crois qu'il a fait son temps.
La justice fonctionne pas comme ça. On peut pas dire que. Moi, je suis pas d'accord qu'on laisse entendre à nos auditeurs que.
Que
la justice est politisée, le parquet est indépendant en France.
Mais monsieur, ça fait peut-être pas très longtemps que vous êtes dans le champ politique. Non, mais permettez-moi de vous dire.
Je réponds.
C'est l'Élysée et le conseiller en charge de tout ce qui relève de la justice qui accélère ou qui décélère sur les affaires.
Donc
les procureurs généraux sont aux ordres des politiques. Les procureurs généraux, en particulier de la cour d'appel de Versailles, donnent ces instructions aux procureurs des différents. Alors, donc moi, je vous le dis, puisque je.
Donc c'est
ça fait très longtemps. C'est l'Élysée qui donne le ton.
Pardon, là, cette condescendance sur l'âge, je ne l'accepte pas.
Sur quoi ?
Sur l'âge. Sur le dit que ça ne fait pas très longtemps que vous êtes.
Je vous ai pas parlé d'âge, non. Je vous dis simplement.
Ça ne fait pas très longtemps.
Non, je vous dis simplement. Je vous dis simplement que dans l'action politique.
Mais moi, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, moi, je persiste et signe. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit.
Bon, bah écoutez.
Je crois que la justice est indépendante en France. Qu'il y ait eu par le passé des instructions. Des instructions, je ne vais pas le nier. Mais là, aujourd'hui, les délais d'appel, l'affaire a été. Enfin, je crois que la relaxe a été prononcée la semaine dernière.
Je n'y crois pas un seul instant. Bah écoutez, vous n'y croyez pas.
Faisons un tour de table.
C'est très trop gros.
François Bayrou. Bah
non,
il
c'est
trop
pas trop gros. Vous savez, plus c'est gros, plus ça passe.
Il n'a pas un peu dérapé, François Bayrou, justement.
Non, mais je crois que notre ami Bruno Pomard l'a bien résumé. C'est quand même une personnalité avec un caractère. Après, il faut pas oublier que ces idées sont quand même aujourd'hui en place. Je sais pas si François Mitterrand s'était moqué de lui en lui disant qu'un jour il serait président de la République. Je pense qu'il y a cru toute sa vie. Mais force est de constater que ces idées ont pesé quand même dans ce qu'a construit Emmanuel Macron. C'est une des personnalités qui était à l'origine aussi d'un rassemblement plus large au centre. Donc voilà, on peut lui rendre hommage pour ça. Il fait pas partie du gouvernement. Bon, moi j'aurais trouvé ça bizarre qu'il entre à l'Éducation nationale après l'avoir été au début des années 90.
Je vous donne la parole juste après la pause, justement, sur le sujet concernant donc François Bayrou et cette petite crise présidentielle. Nous parlerons aussi, vous savez quoi, du camp de migrants qui a été évacué, illico expresso. Nous parlerons aussi du député Meyer Habib qui a taclé Bompard. 01-53-48-3000. Solal vous attend, vous pouvez évidemment intervenir. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h37, le 01-53-48-3000. C'est parti, jingle.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Pour parler justement de ce camp de migrants évacué à Paris et des associations qui dénoncent justement tout cela, qui dénoncent un nettoyage social. Parlons-en, 01-53-48-3000. Le député Meyer Habib qui lui s'en prend à Manuel Bompard avant d'embrasser Jordan Bardella. Une scène qui a fait beaucoup réagir, chers amis. On fait un tour de table, nous en parlons justement. Ce camp de migrants où les associations, une cinquantaine d'exilés ont été transférés en province. Les associations ont clairement parlé de nettoyage ethnique. Alors, parlons-en de nettoyage social. Plutôt, pardonnez-moi. Nabil et Takash, les JO, on est à quoi ? Quelques mois des JO. Et voilà que surgit une véritable polémique en parlant de ce camp de migrants.
Oui, alors, en plus, il se trouve que je passais pas très loin, il n'y a pas très longtemps. Je crois que la semaine dernière, un soir, assez tard. Et je ne sais pas si on peut se permettre aujourd'hui, au-delà des JO, hein, c'est pas la question.
Bah mais là, il se trouve qu'il y a les JO.
Déjà, au-delà de la question des JO, parce que je ne veux pas dire qu'on va nettoyer les quais de Seine parce qu'il y a les JO. Ce serait horrible de le dire pour ces personnes-là. Moi, je ne sais pas si on peut. Je vois que les associations dénoncent. Non, c'est pas une coïncidence. Il n'y avait pas ça avant. Je passe souvent sur les quais de Seine.
Il y a toujours eu ça.
Mais pas dans cette mesure-là. Vraiment. Là, vous avez un véritable camp avec des tentes, des gens qui se sont installés, qui vivent. Et je ne crois pas qu'on puisse se permettre en France ou n'importe où ailleurs de laisser des gens dormir comme ça dans la rue. Ça pose aussi des enjeux de salubrité, d'hygiène et aussi, bien évidemment, de sécurité. Donc voilà. Donc je sais pas comment ont été relogées ces personnes. À chaque fois qu'il y a une évacuation, normalement des propositions de relogement sont faites. Donc, à ces personnes.
Justement, ils ont été pris en charge dans des structures en province.
Voilà, elles ont été prises
en province, dormir sous les ponts. Quoi.
Exactement, que dormir sous les ponts. Donc, moi, je ne comprends plus ces associations qui viennent dans le débat pourrir le débat public. On parle de nettoyage.
Non, mais il y avait simplement un motif qui pouvait à peu près aller dans le sens des associations, c'est que on nous expliquait que certaines des personnes qui ont été déplacées en province avaient des contrats de travail, tout en ayant statut de clandestin, qui avaient des contrats de travail, quoi. Donc en région parisienne. Donc forcément, les déplacer en province, ça pouvait poser problème. Mais je pense que les pouvoirs publics derrière vont tenir compte des gens qui ont des contrats de travail et faire des propositions, je dirais, à ces gens-là. Voilà, ces gens-là.
Il y a des mesures qui doivent être prises.
Mais pour revenir sur les JO aujourd'hui, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'on puisse présenter, des rues, un environnement.
Ouais, c'est pas gagné. Ça, on est d'accord. Moi, je voudrais pas que nos concitoyens pensent que c'est fait simplement pour.
Mais ils le pensent pour le moment.
Il faut pas qu'ils le pensent.
En tout cas, les associations
chaque
le pensent.
Année,
Katia Beury, ensuite Bruno Pomard.
On a 120 000 personnes aujourd'hui qui sont hébergées dans des centres d'urgence en Île-de-France. Déjà, ils sont surbookés. Donc, évidemment, ça va être compliqué. Donc, on les loge depuis des années.
Et qui sont relogés depuis tout le temps.
Et qui sont relogés, et ça n'a rien à voir avec les JO. Depuis avril 2023, juste pour donner un chiffre, il y en a eu 3400 qui ont été relogés. On parlait pas des JO à ce moment-là, et on les relogeait dans des centres d'urgence. Donc là, en effet, et je te rejoins tout à fait...
Les billets à cash.
Voilà, exactement. Sur le fait que je préfère les voir dans des structures encadrées plutôt que de les voir dans la rue. Maintenant, oui, il faudra voir s'il y a des gens qui, en effet, et j'ai entendu ça aussi, qui ont des contrats de travail, si on peut faire quelque chose pour eux, je pense en effet que ça sera pris en compte. Mais là, ça a été déjà... C'est 72 personnes qui ont été réorientées vers la province, à voir après sur les cas particuliers. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont dans des centres, ils ne sont plus dans la rue. Et moi, c'est ça que je regarde.
Hassan et ensuite Bruno Pomard.
Non, mais surtout, bon, c'est vrai, certes, c'est une affaire, mais moi, j'aimerais... rebondir sur ça pour dire qu'en fin de compte, à l'approche des Jeux Olympiques, nous, en ce qui nous concerne, je dirais, nous, organisation de banlieue, on en a déjà discuté il y a 2-3 mois, de faire à l'approche des Jeux Olympiques des assises des banlieues, puisqu'on estime que lors des émeutes de juin 2023, que les réponses qui avaient été apportées par le gouvernement n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Bon, à l'époque, la première ministre... Bon, j'ai oublié un peu le nom. La première ministre
Elisabeth
Borne avait donc préconisé un certain nombre de mesures qui n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Donc nous, en ce qui nous concerne, à l'approche des Jeux Olympiques, on a donc l'intention d'organiser des assises de banlieue pour réclamer, je dirais, des mesures à la hauteur des enjeux.
En même temps, ça tombe à l'énon, ça y est, se confirme avec ce que vous avez évidemment cité tout à l'heure. C'est confirmé, je surveillais un peu ce remaniement. Donc les noms qu'on a cités depuis tout à l'heure, évidemment, ont été confirmés. Bruno Pomard.
Bon, j'irai dans le sens de Nabil, là, par rapport aux Jeux Olympiques. Bon, ça, c'est une annonce, c'est fait par les associations, l'histoire de faire un peu du buzz. Mais
Pourquoi,
mais le problème des migrants, le problème des sans-papiers, le problème des mineurs isolés qui... pour une partie gangrène nos départements. Moi, je le vois chez moi dans le sud. Les départements financent, c'est des coûts exorbitants pour ne pas prendre en compte une grande partie de ces jeunes qui errent partout, et qui sont le résultat aussi d'une délinquance. Alors, mettons pas tous les jeunes, parce que c'est comme les quartiers, c'est pas que du deal et que de la prostitution. C'est plein de choses aussi, les quartiers, très intéressantes. Et toutes ces choses-là, à un moment donné, on est submergé, encore une fois. Il faut qu'on arrive à trouver des réponses avec cette loi immigration, entre autres, mais des réponses concrètes avec peut-être un centre européen qui permettrait d'accueillir tous ces migrants. On peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure, sur le bord de la Seine, des gens sous des tentes, c'est ça, accueillir des on nous dit, les associations là. Moi, les associations, je les prendrai un par un et je dirais tiens, tu vas le prendre dans ton appartement, le migrant, puisqu'il dit il faut les prendre en compte. Alors on dit c'est l'État qui doit faire. Mais quand on voit ce qui se passe, mais c'est scandaleux. Mais ça fout. Moi, voir des gens crever dehors, c'est ça l'accueil de la France.
Moi, ben non, je suis contre. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis à beaucoup de gens un peu bobo gaucho
et qui les accueillent.
Qui en fait, j'en dis mais est-ce que tu les accueilles chez toi en
ah
fait
ben non. Clairement. Ah ben non. La seule chose que fait les filles, c'est d'aller avec eux.
Simplement, voilà, aller s'afficher, faire semblant d'aller dormir avec eux. Ce qu'a fait la LFI à un moment. Donc, c'est une insulte, en fait, pour moi, d'instrumentaliser le drame que vivent ces personnes. Et voilà. Et ça date pas d'aujourd'hui, encore une fois. On le disait, ça date pas d'aujourd'hui, les propositions de relogement. Depuis 2017, le gouvernement a augmenté les places d'hébergement d'urgence.
On continue d'avancer, justement, et on va aborder le dernier sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Chers amis, y compris au 0153 48 3000, vous pouvez nous appeler. Les Insoumis, vous savez qu'ils n'étaient pas les bienvenus, justement, aux Invalides hier au grand hommage du 7 octobre. Alors, et pourtant, vous savez, M. Meyer Habib, qui est le député LR de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe donc la Méditerranée, hein, dont Israël et la Turquie et d'autres pays. Alors, il a fustigé la présence de certains députés, dont l'échange qu'il a eu avec Manuel Bompard. Est-ce qu'on peut faire un tour de table? Parce que. Il a interpellé Manuel Bompard, qui est le député, et ensuite, après, il a tapé la bise à Jordan Baldella, qui est lui-même le président du Rassemblement national. Alors, Nabil Aitakash, justement.
Alors, tout d'abord, moi, je trouve ça pas du tout républicain. C'est une cérémonie de commémoration. Je ne crois pas qu'il faille se comporter de cette façon-là. Ce député, à mon sens, il pose problème au moment de cette cérémonie. Beaucoup de ses interventions sont extrêmement problématiques. Moi, j'invite nos auditeurs à voir un article du Monde qui est vraiment très intéressant et qui pose les questions. C'est quand même quelqu'un qui est soutenu, qui a été plusieurs fois soutenu dans ses campagnes électorales par Benjamin Netanyahou, qui connaît depuis très longtemps. Donc, c'est quand même, rappelons que Netanyahou est à la tête d'un gouvernement d'extrême droite en Israël. Ça de côté, il y a une cérémonie à la mémoire des victimes qui sont mortes pendant les attaques du 7 octobre. Voilà, je pense qu'il aurait pu éviter de se mettre en scène, accepter le protocole républicain qui veut que tous les partis soient représentés et refuser aussi cette mise en scène avec le Rassemblement National en tapant la bise à Jordan Bardella. J'ai pas trouvé ça très respectueux des choses et du protocole.
Bruno, Meyer Habib, il est quand même très à droite, quoi. Déjà, hein. Mais en soi.
Oui, mais il est les républicains. Hein,
oui, toujours mais bien à droite. Mais bref, tout ça dit en passant, c'est que bon, à la limite, il a envie d'embrasser Jordan Bardella. Écoutez, en politique, ils s'embrassent tous. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont tous à se claquer la bise.
Ouais, mais la scène est mise. Enfin, il y a une mise en scène quand même derrière.
Je ne sais pas. Si tu le vois comme ça, je dis tout simplement qu'il a sûrement des relations.
J'ai plus eu l'impression, provocation de LFI, il a fait une provocation de son côté.
Il n'a pas sa place à une cérémonie de commémoration. C'est ça que je veux dire. Il peut embrasser qui il veut, moi je m'en fiche.
Le bonjour, les républicains, il aurait pu le faire, mais en effet, en serrant la main. En et puis après, main, à l'extérieur, lui faire la bise s'il avait envie.
Et pourtant, on parle de LFI, pas des gens avec qui je partage mes convictions. Je ne partage pas de convictions avec la France insoumise. Mais le rite républicain, le protocole, c'est quand même important et c'est pas pour rien qu'il est mis en place en général.
Moi, ce que pour faire une conclusion sur ce tout ce qui se passe dans ce conflit israélo-palestinien, et quand on voit ce qui se passe là, avec la présence de LFI à ce rassemblement, qui n'a pas eu le courage de dire évidemment que le Hamas était quand même un groupe terroriste, reconnu internationalement comme un groupe terroriste, et non pas comme une armée de défense, voilà, qui fait un tort terrible à nos compatriotes palestiniens, aux Gazaouis. C'est une évidence, même si certains Gazaouis adhèrent sûrement au Hamas, on peut pas le nier. Moi, je trouve que tout ça fait beaucoup, beaucoup de mal, encore une fois, au peuple palestinien, et je trouve qu'on aurait dû trouver, les politiques auraient dû trouver une mesure plutôt d'être dans l'hystérie, comme on en a vu, mais que ce soit à Renaissance comme partout, hein, à trouver un équilibre dans un moment qui est aussi difficile que ça, pour taper sur le Hamas, ça, j'ai pas de souci, mais en même temps, pour reconnaître qu'à un moment donné, et tu le disais, le gouvernement de Netanyahou est quand même un gouvernement d'extrême droite qui veut anéantir, qui veut à tout prix anéantir le Hamas, pourquoi pas, mais en anéantissant le Hamas, il va faire des dégâts collatéraux qui seront considérables pour un peuple qui n'a rien demandé.
18h,
je pense à nos amis palestiniens. 19h,
pardon, 49, je veux pas qu'on se loupe, je vous donne la parole évidemment à Katia Beurier, ensuite à Hassan Mbarek, juste après le Quoi de Neuf avec Pascal Boniface.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme ça que je dis, vous savez, c'est avec le directeur fondateur de l'IRIS, l'Institut l'IRIS. C'est géopolitologue d'ailleurs, monsieur Pascal Boniface, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Comment
bonsoir.
Allez-vous?
Écoutez, mieux que le monde.
Mieux que le monde, c'est une très bonne chose. Je vous lance évidemment dans votre billet d'humeur et vous allez nous parler de l'offensive sur Rafah de Netanyahou. Allons-y.
On peut vraiment s'attendre au pire. On espérait une trêve. La tournée d'Anthony Blinken au Proche-Orient permettait d'espérer une trêve, dont on parlait d'une trêve de 45 jours qui aurait lieu, qui aurait permis une accalmie, qui aurait permis que l'assistance humanitaire soit livrée à la population de Gaza et un arrêt des combats. Mais Benjamin Netanyahou a dit l'inverse. Il a dit qu'il allait pousser, il allait demander à l'armée israélienne de pousser une offensive sur Rafah, là où sont concentrées 1 200 000 personnes qui ont fui le reste de la bande de Gaza. Et il justifie cela en disant qu'il faut une pression militaire supplémentaire pour libérer les otages, parce que si on cède aux exigences exorbitantes du Hamas, il y aura des massacres prochainement. En fait, le massacre, il va arriver. Il va arriver sous la population de Gaza avec cette intervention. Il est déjà là en grande partie. Le Hamas, alors on dit que c'est le Hamas, ces chiffres ne sont pas vérifiables, mais pour l'instant, ils ont toujours été vérifiés corrects. 27 000 morts. Il y a 10 000 enfants qui ont été amputés. Il y a des amputations qui se font sans anesthésie parce qu'il n'y a plus de système de santé à Gaza. Il n'y a plus de système d'école. Il n'y a plus de jeunesse scolarisée. Et tout le monde vit dans la crainte permanente des bombardements ou dans le vécu des bombardements chaque nuit et chaque jour. Les troubles psychologiques que va subir toute la population seront terribles. Et donc, M. Netanyahou lance une offensive. Pourquoi ? Parce que les deux partis extrémistes qui forment sa coalition, les deux partis de colons, disent qu'en cas de trêve, il quitte le gouvernement et que le gouvernement tombe. Il ne veut pas tomber, M. Netanyahou. Il veut rester au pouvoir en espérant que bientôt Trump pourra être élu et pourra l'aider. Et donc voilà, alors bien sûr on peut craindre pour la vie des otages, soit par des bombardements, soit autre chose, et bien sûr les familles des otages sont vent debout contre cette décision, et puis on peut surtout craindre pour ce qui va se passer à Gaza, il y aura encore plus de morts par bombardement, encore plus de morts par manque d'alimentation, encore plus de morts par l'épidémie qui va se répandre, et le monde occidental qui assiste impuissant volontairement à tout cela, portera devant l'histoire une lourde responsabilité.
Exactement. Merci pour ce billet d'humeur. Bruno Pomar, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Mais non, non, c'est une excellente analyse, ce que ouais. Je te disais.
Vous avez les félicitations de Bruno Pomar.
Merci à lui.
Merci, grand merci à vous, Pascal Boniface, et à la semaine prochaine sur Faute. Non, il est bon.
Il a des bouquins jolis, ouais, parce qu'il est très pédagogue.
Tiens, faisons un peu de promo. Vos bouquins, bon. Vous pouvez nous rappeler les petits derniers, mon cher Pascal Boniface, et aller se les procurer, justement.
Les deux BD, géostratégiques, ce qui marche très très bien, là. Tout à fait. C'est vraiment... Bon. Et puis je viens de sortir un autre petit bouquin assez amusant, 50 idées reçues sur l'état du monde, toujours chez Armand Colin.
Oui, tout à fait. Eh bien merci pour la promo, il faut en parler, il faut aller se procurer les bouquins de Pascal Boniface. Merci, je vous embrasse, à très bientôt mon cher Pascal Boniface.
Bon. Salut, bonne soirée à tous.
Faites la promo de votre livre aussi également.
Bon alors moi c'est beaucoup moins technique ou géopolitique, c'est les quartiers non prioritaires de la ville aux éditions... Aux éditions, je ne sais plus. Ouais. C'est les quartiers non prioritaires de la ville, voilà, tout simplement.
Allez-vous le procurer aussi.
Sur une analyse du travail que je fais depuis 30 ans dans les quartiers.
Allez-vous le procurer. Un mot sur, vous voulez dire, sur le député, Maillard ? Non, c'est bon ? Parce que là, ça y est, on arrive à la fin.
Non, juste dire que je trouve dommage tout ce qui s'est passé, toute cette polémique, que ce soit les filles ou ce député. Mais à côté de ça, je salue les familles.
Oui, je pense qu'il y aurait plusieurs choses à dire sur l'attitude de M. Meyer, Habib.
Rapide, hein, parce que je dois rendre l'antenne. Hein.
C'est que dire aux députés LFI que sa présence équivalait à la présence de Bousquet et Papon, c'est excessif, très excessif. Ça, c'est la première des choses.
Première
et injuste.
Fois. C'est pas la première chose.
Excessif et injuste. Et la deuxième chose qui est le plus important, je pense actuellement, c'est qu'à l'intérieur des LR actuellement, on voit qu'il y a un courant...
Merci messieurs, je dois rendre l'antenne, hein, parce qu'on va être coupé.
Oui, voilà, mais qu'il y a un courant aujourd'hui des LR qui tire vers les RN et d'autres qui vont tirer vers...
Merci Nabil et Takash. Merci Bruno Pomar. Merci à Katia Aburier. Merci à Hassan Mbarek. À la réalisation, c'était deux. Nabil et Solal, merci à vous deux. Bilal Lendman, tout de suite. Vanessa, 21h. Kim, demain matin. À demain avec autant de plaisir, mais surtout... On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.